Vous avez déjà beaucoup entendu parler de David Castello-Lopez aujourd'hui, pas forcément en bien vu que c'était dans ma chronique, mais c'était pour rire car David est un génie du journalisme qui remonte pour nous aux origines des choses. Aujourd'hui, pour Olivier Marchal, notre invité, pour notre spécial grand flic de l'histoire, les origines du gaz lacrymogène.
Tout à fait. Alors, vous le savez peut-être pas, sans doute pas même, mais avant d'être un journaliste qui fait des blagues, j'étais un journaliste normal.
Non.
C'est-à-dire juste un type qui donne des informations. Et j'ai commencé ma carrière à la radio TSF Jazz. Pour ceux qui connaissent TSF Jazz, chaque heure, en fait, on coupe Miles Davis ou Ibrahim Maalouf et il y a un monsieur ou une dame qui fait un flash ou un journal qui ressemble beaucoup à ceux de Christophe Lamar, par exemple. Et en 2006, je faisais des reportages sur ce qui se passait à Paris, à l'époque notamment sur les manifs anti-CPE, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ça ne nous rajeunit pas,
et
mais oui.
J'ai été pris, comme tant de journalistes avant et tant de journalistes après moi, dans une charge de CRS.
Aïe.
Et j'ai goûté pour la première fois de ma vie au gaz lacrymogène. Et jusque-là, je dois dire que je voyais des images quand je voyais des images à la télé de gens dans des manifs qui se prenaient du gaz lacrymogène, je me disais, ça doit picoter. Mais ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, le gaz lacrymogène, ça fait infiniment plus que picoter. Ça vous défonce complètement la face. C'est-à-dire, on ne peut plus ouvrir les yeux, on a l'impression qu'on va devenir aveugle, il y a la gorge qui brûle, on tousse sans pouvoir s'arrêter. C'est horrible. Alors, c'était il y a 15 ans, mais je m'en souviens encore, et il m'a semblé sympa, donc, pour notre numéro spécial police, spécial Olivier Marchal, de parler donc des origines du gaz lacrymogène. Alors, mettre des trucs qui piquent dans les yeux de ses ennemis pour qu'ils arrêtent de vous emmerder, c'est une pratique assez ancienne, quand même. Hein. On le faisait déjà au Japon du Moyen-Âge, avec du piment en poudre, parce que vous avez déjà vu, si vous mettez du piment dans vos yeux, ça fait mal. Il suffit d'en faire une petite poudre,
c'est terrible.
Vous l'envoyez dans le visage des
Ou
gens.
Il suffit de bouffer un truc avec du piment, de mettre soi-même le piment, de préparer un plat, parce que je ne fais jamais plus la cuisine depuis, et ensuite d'enlever ses lentilles.
Ah,
ben et là, je peux vous dire que vous dégustez bien.
Hein, ma vue est parfaite, donc je ne suis pas concerné.
Oh, bah tiens, au moins, comme ça, quelque chose est parfait. Enchaînez.
Mais le gaz lacrymogène moderne, donc celui avec du piment, il est français. Et il date de juste avant la Première Guerre mondiale, où la police française a fait des essais avec. Mais en fait, c'est quand même vraiment pendant la Première Guerre qu'il a été utilisé à grande échelle. Et il est fort possible, même si ce n'est pas complètement avéré, que ce soit une attaque française au gaz lacrymogène qui ait déclenché la guerre chimique entre l'Allemagne et la France, avec cette surenchère qui a amené à l'utilisation de gaz qui ne faisait pas que pleurer, mais qui vous tuait votre race, tout simplement. Alors, le truc, c'est qu'en France, après la Première Guerre, le gaz est devenu un petit peu tabou, à cause des dégâts qu'il avait fait dans les tranchées. Et donc, il a cessé temporairement d'être utilisé par la police. Mais en revanche, il y a un général américain qui avait géré les affaires de gaz de combat pour les États-Unis pendant la guerre et qui, revenu chez lui, a commencé à être une sorte d'ambassadeur de VAP du gaz lacrymogène. Et il a convaincu plusieurs services de police américains de commencer à l'utiliser. Et ça a très bien marché. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un peu l'arme parfaite pour disperser les foules. Il y a un journaliste américain qui, dans les années 30, a écrit la chose suivante. Il a écrit « Le gaz lacrymogène semble être admirablement adapté au but d'extraire l'individu de la foule. Le gaz fait en sorte que l'individu ne puisse plus penser à rien d'autre qu'au fait de soulager sa propre détresse. Dans ces conditions, la foule cesse d'exister, ne subsiste plus qu'une fuite destinée à s'éloigner de la source de la torture. » Et Amos Fries, le général, il ajoutait « Il est plus facile pour un homme de garder le moral face à des balles de fusil que face à du gaz lacrymogène. » Et assez vite, toute la police américaine, elle était d'accord, et puis toutes les polices du monde ont commencé à l'utiliser. Alors il y a quand même un truc étonnant avec le gaz lacrymogène, c'est que le droit international interdit le fait d'utiliser du gaz lacrymogène sur le champ de bataille, donc à la guerre, mais il dit « en revanche, pour disperser les gilets jaunes, franchement, il n'y a pas de problème. » Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est permis pour les gilets jaunes et c'est pas permis sur le champ de bataille?
C'est permis
bizarre.
Sur le champ de bataille, c'est absurde. C'est la guerre, on fait ce qu'on veut.
Ah non, il y a des conventions,
des règles.
Alors, il y a des marques de Genève, on peut plus commettre d'actes de barbarie, par exemple. La GGN, non, c'est jamais un ennemi.
C'était quelques pays récemment où ça s'est quand même passé.
Ah oui, ça s'est passé, mais c'est quand même contraire au droit
international. L'Azerbaïdjan, c'est pas gêné en Arménie.
Ça, c'est vrai, Stéphane. C'était le petit édito géopolitique de Stéphane Bern.
Je vais dire, mais en fait, pourquoi? Parce que, un peu comme pendant la Première Guerre mondiale, il y a un risque d'escalade. Si vous êtes une armée et que vous voyez un nuage de gaz arriver vers vous, vous savez pas si c'est du gaz sympa ou du gaz très très méchant qui tue.
C'est quoi le gaz sympa? Bah, c'est le gaz lacrymogène. Ils vont pas envoyer du gaz hilarant.
Non, le gaz sympa, le gaz lacrymogène, c'est le gaz qui ne tue pas, qui est par opposition à des gaz qui peuvent vous tuer comme les gaz de la Première Guerre mondiale. Donc quand vous voyez ça arriver vers vous, vous êtes susceptible de riposter avec des gaz plus puissants. Et là, c'est la merde, l'escalade, c'est la Première Guerre mondiale. Alors voilà, et donc c'est pour ça que c'est permis pour les gilets jaunes et pas à la guerre. Alors moi, pendant les manifs anti-CPE, ça s'est pas si mal terminé que ça. Parce que j'avais beau être un petit parisien bobo avec un micro TSF jazz.
Quand même. Ça, c'est vraiment le prototype du bobo.
J'ai été quand même secouru par de jeunes révolutionnaires qui parlaient avec ce qu'on appelle quelquefois l'accent lascar. Et ça m'a touché parce que ça voulait dire qu'il y avait une sorte de front social commun devant l'adversité des larmes et de la toux. Vous voyez, ils m'ont mis du collier, ils m'ont donné une serviette et ils m'ont fait en sorte que je puisse me réfugier dans un endroit où il n'y en avait plus. Et donc finalement, pour moi, ce moment de gaz lacrymogène, c'est pas un si mauvais souvenir que ça.
Voilà. Le gaz lacrymogène. C'est la conclusion.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.